à travers la Bible. Une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le Dr Vernon Maggy du ministère Through the Bible, produit par Trans World Radio. Réalisation Abdoulaye Sango. Présentation Marcel Mondiou-Do. Bonne écoute à tous.
Tempête, orage, tonnerre, épreuve et difficulté, vous qui sans cesse m'entourez dans ma marche, écoutez-moi. Je n'ai aucune crainte, quoi qu'il arrive. Puisque, voyez-vous, je suis sur le roc Jésus-Christ qui me tient avec lui. Je suis vainqueur. Emmanuel Mobitang à la prise de son se joint à moi et à l'unisson te disant bienvenue à ce rendez-vous d'écoute. L'instruction à travers la Bible ci est la 1004e tirée de l'épître de Jacques chapitre 1 du verset 3 à 11. N'hésite pas de poser des questions à propos après l'écoute. Apprends-nous aussi ce qui t'aurait particulièrement marqué. Déjà note nos contacts que voici, puis correspondons.
À travers la Bible. À travers la Bible sur TWR. Vos commentaires et vos réflexions nous intéressent. Écrivez-nous à l'adresse suivante, à travers la Bible, 06 BP 21 31 Abidjan 06, Côte d'Ivoire. Téléphone 22 49 03 01. Mobile 00 225 05 51 49 06. Email twr2131@yahoo.fr. Site www.twrafrica.org.
Retrouvons Jacques. Jacques, serviteur du Christ vivant, homme plein de sagesse et de connaissances qui apprend aux croyants comment vivre pratiquement la vie chrétienne sur cette terre où nous sommes en pèlerinage. Du coup, d'emblée, il apprend aux croyants qu'en devenant disciple du Christ Jésus, ne t'attends pas que tu ne connaîtras pas des épreuves de la vie. Au contraire, regarde-les comme un sujet de joie complète auquel tu peux être exposé. Ces choses te poussent à devenir un homme fait. C'est de cette manière que Dieu tisse, qu'il forme ses gens. Ne t'éclate pas donc en larmes, comme si quelque chose d'affreux et de terrible t'arrive. Car c'est de cette manière que le Dieu vivant et vrai éprouve ses disciples. Jacques nous dit qu'il nous faut reconnaître seulement que le Seigneur n'éprouve pas ses enfants avec joie. Il ne te fait pas connaître la tempête avec gaieté de cœur. Seulement, il faut que tu sois formé comme Job l'a été. Pourquoi l'épreuve ? Eh bien, l'ancien dit, Jacques chapitre 1, verset 3, « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Jacques nous apprend tout d'abord que l'épreuve a pour résultat la joie. Après l'épreuve, il y a la joie. Pense à une femme qui accouche. L'accouchement n'est pas du tout facile. La femme risque même sa vie. Mais quand le petit bébé est né, mets-toi à côté et regarde maman et son nouveau-né. Elle est toute heureuse et lui trouve un joli petit nom de caresse. Les épreuves dans la vie ont un but indispensable sans lequel elles seraient très, très injustes. Crois-tu au Christ? Oh, que ta confiance en Christ te fasse comprendre que l'épreuve dans ta vie a un but. Elle n'arrive pas par hasard. Elle n'arrive pas pour rien. Tu peux ne pas comprendre le but. C'est la mise à l'épreuve de ta foi. Souviens-toi que tu es éprouvé parce que tu es un enfant de Dieu. Dieu te tisse. L'épreuve de ta foi produit la patience. Es-tu patient? Ah, c'est très important. Dieu va te l'accorder par des épreuves. Jacques chapitre 1, verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Bien. C'est la patience qui te fera devenir un chrétien mûr, un chrétien accompli. Mais comment Dieu peut-il produire en toi la patience? Fait important, la patience est un fruit du Saint-Esprit. Tu ne deviendras jamais patient en essayant de l'être. Par toi-même, te dire, bon ben, je vais essayer d'être patient. Ah non, non. Et puis, le Saint-Esprit ne te donnera jamais la patience sur un plateau d'or comme un cadeau royal. Sais-tu comment vient la patience? Eh bien, la patience vient à travers des souffrances, à travers la mise à l'épreuve. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli, sans faillir en rien. Tu ne seras jamais un chrétien parfait, c'est-à-dire un chrétien complet et mûr sans la patience. C'est pourquoi certains chrétiens n'ont jamais vraiment grandi et restent toujours des bébés dans la foi. J'ai affirmé dans la prêche un dimanche matin qu'il y avait peu de bébés dans l'église qu'à l'école des dimanches des enfants. Quand je l'ai dit, je n'ai pas entendu beaucoup d'éclats de rire. Sais-tu la différence? La seule différence est que les bébés dans la garderie sont beaux, alors que ceux qui sont assis dans l'église ne sont pas très agréables à regarder. Il existe beaucoup de clameurs, de colère, de critiques, d'agitation et de tension dans certaines églises aujourd'hui. C'est parce qu'un grand nombre de chrétiens n'ont pas grandi, ils sont encore des bébés. David a écrit au psaume 131, « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfuit, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sévré. » Psaume 131, versets 1 et 2. En d'autres termes, David dit, j'ai compris, j'ai découvert que je dois grandir, j'ai besoin de lait, mais aussi de nourriture solide, je dois manger le pain de vie. Tu sais, Dieu a éprouvé David, et cette mise à l'épreuve lui a permis de grandir. Il existe beaucoup de chrétiens superficiels aujourd'hui. Beaucoup n'ont aucune certitude. Certains intellectuels, entre guillemets, mettent en doute la parole de Dieu. D'autres pensent même qu'étant chrétiens, nous devrions essayer la nouvelle moralité, l'évangile libéral, vivre comme on veut. Parce que ces chrétiens n'ont jamais vraiment grandi. Ils sont toujours des bébés dans la foi. Et voilà où réside le problème. Dieu nous envoie des épreuves pour produire la patience dans notre vie, afin que nous devenions des enfants mûrs, des enfants du Dieu vivant. Aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de cela. Le Seigneur nous envoie des épreuves afin que nous apprenions la patience, ce qui produira aussi l'espérance et l'amour dans la vie d'hommes et de femmes. Pendant les années de mon ministère, j'ai vu le Saint-Esprit travailler ainsi dans la vie de nombreux chrétiens. Je me souviens d'un homme qui, lorsque je l'ai rencontré, passait son temps à critiquer. Comme pasteur, je n'avais jamais connu autant de critiques. Puis, il a commencé à assister aux études bibliques hebdomadaires à l'église. J'ai remarqué qu'il apportait sa Bible et prenait des notes. Et quelque temps après, Dieu a envoyé à cet homme une grande épreuve. C'est alors qu'il a grandi et est devenu l'un des chrétiens les plus merveilleux que j'ai rencontrés au cours de ma vie. Voilà le type d'épreuve que Dieu envoie à ceux qui lui appartiennent. Jacques, chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. La sagesse, vois-tu, la sagesse ici est liée aux épreuves dont Jacques a parlé. La sagesse est liée aux épreuves. Toi et moi avons des ennuis, des épreuves et des problèmes, n'est-ce pas? Comment vas-tu résoudre le problème? Comment vas-tu affronter ce dilemme? Comment vas-tu traiter avec cette femme, avec cet homme, avec cette personne? Si tu manques de sagesse concernant un problème particulier, il faut t'adresser à Dieu dans la prière. Sache que la sagesse est l'exercice pratique de la connaissance. De nombreuses personnes ont de la connaissance, mais elles ne la mettent pas en pratique. Encore aujourd'hui, je ris en pensant à l'homme avec lequel j'avais coutume de jouer au golf et qui possédait un doctorat. Un jour, sur le terrain de golf, il s'est mis à pleuvoir. Puis, il m'a regardé, alors, avec étonnement, et m'a dit, « Vernon, qu'allons-nous faire maintenant ?» Mon cher, peut-on poser une telle question? On n'a pas besoin d'un doctorat pour savoir que lorsqu'il pleut, il faut aller se mettre à l'abri. Je lui ai répondu, je pense que nous ferions mieux de chercher un abri. La sagesse consiste à savoir comment agir en des circonstances difficiles ou quand des problèmes surgissent. La vie en est remplie. Et toi et moi avons besoin de la sagesse de Dieu. La sagesse nous pousse de manière définie à régler des problèmes qui surgissent. Jacques dit qu'il donne à tous simplement et sans reproche. Le rôle du Seigneur consiste à nous donner simplement la sagesse. Il t'aidera simplement en période de difficulté. Sans reproche signifie qu'il te donnera ce dont tu as besoin sans t'en vouloir. Si nous manquons de sagesse, allons auprès de Dieu qui écoutera et répondra à notre prière. Jacques chapitre 1, verset 6. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Peut-être pour toi ce n'est pas un problème, mais pour moi, c'en est un pendant une bonne partie de ma vie chrétienne. Comprends-moi, j'ai cru en Christ comme mon sauveur et je crois de tout mon cœur qu'il m'a sauvé et que j'irai un jour au ciel. Je le crois de tout mon cœur, mais ici-bas dans cette vie, j'ai connu ce problème. Jacques dit, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Pourquoi ne crois-tu pas en Dieu, cher ami? As-tu une longue mine comme chrétien aujourd'hui? Te demandes-tu comment tes problèmes vont se résoudre? Je sais exactement ce que tu ressens, car je me suis trouvé dans la même situation. Pourquoi ne crois-tu pas en Dieu? Pourquoi ne lui fais-tu pas confiance et ne lui remets-tu pas tes problèmes? Pourquoi? Je sais que je suis incapable de résoudre les problèmes de la vie. Je sais que je ne peux vivre dans cette civilisation complexe. Mais, j'ai un Père céleste qui peut me donner la sagesse dont j'ai besoin. Alors, j'affronte. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Nous disons souvent, je crois que Dieu va régler cette situation. Mais nous nous en chargeons nous-mêmes. Trop souvent, je remets un problème au Seigneur et crois qu'il va le résoudre, puis, le lendemain, je ne lui fais plus confiance. Je vois qu'aucune solution ne s'est présentée et j'essaie de régler le problème par moi-même. Voilà où réside notre erreur, mon erreur. Un tel homme est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Oh, demandons la sagesse à Dieu. Je dois demander la sagesse à Dieu. Jacques chapitre 1, verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Si tu décides de régler ton problème par toi-même, alors Dieu ne va pas s'en charger. Je répète que si tu décides de régler ton problème par toi-même, le Seigneur ne s'en charge pas. Au lieu d'agir comme un éclair qui essaie de trouver une solution, pourquoi ne te tournons pas vers Dieu? Jacques donne ici un excellent proverbe. Jacques chapitre 1, verset 8. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voilà, c'était le grand problème d'Israël. Le prophète Osée a dit qu'Israël était comme une colombe sans intelligence. Les enfants d'Israël ont fui en Égypte pour chercher de l'aide, puis ensuite en Assyrie, vers Ninive. Ils se sont tournés vers tout un chacun, sauf vers le Seigneur Dieu. Très souvent, quand un problème surgit, nous allons un peu partout, pour essayer de le résoudre. Puis nous réalisons soudain que nous ne l'avons jamais apporté au Seigneur. Quand tu as commencé ta journée aujourd'hui, as-tu remis à Dieu les problèmes que tu vas rencontrer aujourd'hui? J'ai eu l'occasion de donner maintes un conseil comme pasteur et je rencontrais des personnes très différentes dans une journée. L'une des prières que j'ai toujours fait était la suivante. Seigneur mon Dieu, je vais rencontrer de nouvelles personnes aujourd'hui et j'ignore comment traiter avec elles. Oh, certaines voudront m'aider à répandre la parole de Dieu et d'autres essaieront de nuire à mon ministère. Seigneur, accorde-moi du discernement. Aide-moi à voir quand je dois faire preuve de compassion et quand je dois offrir mon aide. Rends-moi conscient de ceux qui ne désirent pas réellement de mon aide. Seigneur, donne-moi la sagesse aujourd'hui. Amis, nous avons besoin de sagesse pour affronter les situations quotidiennes. Jacques chapitre 1, verset 9. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Tu dis peut-être, moi je suis pauvre. Je suis pauvre, je n'ai que peu de choses, je ne possède aucune richesse. Mon cher, si tu es un enfant de Dieu, tu es très riche, tu es bien riche. tu as le trésor dans le ciel. N'as-tu jamais pensé à ce que tu possèdes ici-bas en Christ? Tu as quelque chose en Christ. Avec Jésus, tu as tout. Nous avons tout en lui. Paul a écrit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollo, soit Cepha, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Vois 1 Corinthiens chapitre 3, versets 21 à 23, précisément. J'appartiens à Christ et il me donnera tout ce qu'il possède, tout. J'ai la vie, j'ai des bénédictions, même j'ai la mort qui m'atteindra un jour si Christ ne vient pas avant. Nous pouvons nous réjouir de tout ce qu'il nous donne. Peu importe si tu es l'enfant de Dieu le plus humble ou le plus pauvre ici-bas. Tu es riche en Christ. Et tu as de quoi te réjouir. Sois dans l'allégresse. Jacques chapitre 1 verset 10. Que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Avant de toucher au commentaire de ce verset, j'aimerais signaler que Dieu n'est pas contre la richesse, mais comment en profites-tu? Je pense toujours à ce verset quand je traverse le campus de mon ancienne faculté. Chaque bâtiment porte le nom d'un homme célèbre. Sais-tu où sont ces grands hommes aujourd'hui? Ils sont comme les fleurs qui étaient hier à maturité et qui aujourd'hui sont fanées. Je pense à la puissance dont ils jouissaient, à leur richesse et à leur influence, mais aujourd'hui, ils mangent les pissenlits par la racine. Ils sont tous mous. Ne te réjouis pas d'être un homme riche, parce que tu n'auras pas ton argent pendant très longtemps. Ton argent ne restera pas très longtemps avec toi. Tu peux ne rien perdre, mais cet argent et ses actions peuvent te perdre un de ces jours, ces choses-là. À ta mort, tu ne les emporteras pas avec toi. L'homme riche est comme la fleur de l'herbe. Il passera. Jacques chapitre 1, verset 11. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises.
Oh, j'ai eu le privilège, il y a des années, de parler de temps en temps à un groupe de chrétiens à Hollywood, en Californie. Parmi les participants se trouvait une actrice de cinéma qui est devenue chrétienne vers la fin de sa vie. Elle avait donc un certain âge maintenant. Et quand je la regardais, je pensais que sa beauté, qui lui avait attiré gloire et fortune à une certaine période, était en train de disparaître peu à peu. Dieu dit que le riche se flétrira dans ses entreprises. Cher ami, réjouis-toi aujourd'hui parce que tu as un sauveur qui non seulement t'a ouvert la porte du ciel, c'est déjà beaucoup, mais qui t'aide encore aujourd'hui. Jésus t'aide encore aujourd'hui. Alléluia. Ici, dans l'épître de Jacques, nous découvrons une autre école. L'école des expériences difficiles. C'est l'école dans laquelle se trouvent la plupart d'entre nous aujourd'hui. Dieu veut amener tous ceux qui lui appartiennent à maturité et il nous fait passer par de nombreuses mises à l'épreuve pour y parvenir. Il éprouve tous ses enfants pour voir si leur engagement à son égard est réel. Il les éprouve pour déraciner les chrétiens de non. Oui, ceux-là, il veut les déraciner. Et il le fait.
Il veut aussi donner de l'assurance à ses enfants. Ne considérons pas nos épreuves comme un signe que Dieu n'est pas avec nous, ou bien que nous ne sommes pas ses enfants. Mais plutôt, ces épreuves doivent être pour nous comme la preuve positive de notre foi. Cher ami, si tu n'as aucun ennui aujourd'hui, tu dois alors te poser des questions. Et si tu as des ennuis, c'est sans doute un signe que toi, tu lui appartiens. Dieu a certes de nombreux buts en vue quand il nous met à l'épreuve, mais celui sur lequel Jacques met l'accent est la patience. La patience. Es-tu patient? As-tu la patience? Le Seigneur ne veut pas seulement te prouver que tu es un véritable enfant de Dieu, mais il veut aussi produire la patience dans ta vie. Or, la patience s'obtient par des épreuves. C'est à travers des difficultés qu'on obtient la patience. Les gens ont beaucoup écrit sur l'épreuve et les buts que Dieu désire atteindre par elle. Et quelqu'un a dit, « Si je dois porter un fardeau, Christ, lui, me portera. Si je dois porter un fardeau, Christ me portera. » Parfois, nous devons descendre bien bas avant de pouvoir lever la tête et regarder en haut. En nous-mêmes, nous sommes faibles, même quand nous sommes forts. En Christ, nous sommes forts, même quand nous sommes faibles. T'en rends-tu compte? L'important n'est pas la durée de ta vie, mais la manière dont tu la vis. Comment mènes-tu ta vie? Il est primordial d'avoir cette perspective. Beaucoup de gens se demandent pourquoi ils doivent passer par une expérience particulière, une expérience difficile. Oh, il y a des années, j'ai reçu une lettre d'un chrétien qui a écrit, « Pasteur, j'ai une épouse qui est malade depuis 20 ans et qui est paralysée depuis 10 ans à cause de la maladie de Parkinson. Il n'y a aucun espoir de la voir quitter un jour l'hôpital. Comment un père aimant peut-il permettre cela? Pourtant, je sais qu'elle aime le Seigneur. » Cet homme était vraiment perplexe. Il n'avait pas de réponse à son problème, et moi non plus. Je n'ai aucune réponse. Je ne pouvais lui dire pourquoi cela lui est arrivé. Par contre, je savais que Dieu visait un but précis et travaillait dans sa vie. Que le Seigneur soit avec toi. Qu'il te bénisse. À bientôt.
Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, une production de Trans World Radio. Pour tout contact, écrivez-nous à l'adresse suivante. À travers la Bible, 06, boîte postale 2131, Abidjan 06, Côte d'Ivoire. Téléphone 22 49 03 01. Que Dieu vous bénisse.